Lesbienne.
Bonjour et bienvenue à toutes. Ici Cassandra Rivet, archiviste au Réseau des lesbiennes du Québec, pour vous présenter un sommaire de la présentation qui s'intitulait 25 ans d'histoire du Réseau des lesbiennes du Québec, qui a été donné là, durant les festivités de la célébration du 25e anniversaire du Réseau des lesbiennes du Québec, le 18 juin 2022, aux Archives nationales sur VGS. Donc, la genèse du Réseau des lesbiennes du Québec, ça commence en 96, alors qu'ont été tenus, là, du 1er au 3 mars, les premiers états généraux de la communauté gays et lesbiennes de Montréal. Ça a été organisé par la table de concertation des gays et lesbiennes du Grand Montréal, aujourd'hui connue sous le nom du Conseil québécois LGBT. Ces états généraux-là ont eu lieu pour faire un bilan des recommandations qui avaient été portées là, dans le rapport de l'illégalité à l'égalité, publié en 1994 par la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse. À l'intérieur de ces états généraux-là, il va y avoir un atelier où des lesbiennes vont présenter des recommandations spécifiques à leurs besoins. De ces 6 recommandations-là, il y en a une qui va être de créer un réseau provincial de lesbiennes. C'est donc à la sortie de cette rencontre-là qu'il va y avoir un groupe de femmes qui vont décider de se mettre ensemble pour créer le comité provisoire du Réseau des lesbiennes du Québec. Elles vont se rencontrer pour la première fois, officiellement, le 18 mars 1996. Puis, en septembre, vont être émis les lettres patentes du Réseau des lesbiennes du Québec. C'est le même mois qu'on va adopter notre premier logo, qui va être créé par Suzanne Drapeau. Puis, les 7 et 8 décembre, en fin d'année, on va donner notre première assemblée générale et mener notre premier congrès de fondation. Puis, l'année suivante, en 97, on va tenir un deuxième congrès de fondation, les 14 et 15 juin. Pourquoi un deuxième congrès de fondation? Parce que, lors du premier congrès de fondation, on n'avait pas eu le temps de définir la structure de fonctionnement démocratique de l'organisme. On n'avait pas eu le temps non plus de voter les statuts et règlements à adopter pour que l'organisation soit constituée. C'est donc à l'intérieur du deuxième congrès de fondation des 14 et 15 juin 1997 que vont être adoptés ces mêmes statuts et règlements, d'après des consultations qui vont avoir été menées là, dans les régions du Québec pour savoir ce à quoi s'attendaient les lesbiennes à la venue de la constitution d'un réseau provincial de lesbiennes. C'est d'ailleurs cette même année-là que l'ARLQ va s'impliquer dans ses premières soirées de bénéfices, puis dans les événements comme Diversité, ainsi que la Fête arc-en-ciel de Québec. Qui nous amène en 98, là, l'année que je définirais comme l'année où l'ARLQ a commencé à faire la promotion de son organisme via des outils de communication. On va d'abord lancer notre premier site web indexé sur ce qui était autrefois la Toile du Québec. En 1998. On va également lancer notre premier bulletin d'information qui s'intitulait « Lesbombe ». C'était le premier d'une série de plusieurs bulletins d'information. Puis, également en 98, là, qu'on va venir s'investir auprès de nos premiers dossiers politiques. Le premier, c'était la reconnaissance des conjoints de même sexe. C'est donc pour ça qu'on va organiser le 25 avril 1998 un colloque débat là, sur ce sujet-là afin de venir prendre le pouls de la communauté lesbienne sur cette question. Les 17 et 18 octobre, ça va être la rencontre préparatoire de la Marche mondiale des femmes de l'an 2000. Ça va être à Montréal. Évidemment, l'ARLQ va y être là, aux côtés de la Coordination nationale lesbienne, qui est une organisation française de lesbiennes. En fin d'année, du 4 au 6 décembre, ça va être la plénière citoyenne à la part entière qui va venir s'insérer dans la semaine de la citoyenneté. Puis c'est à l'intérieur de cette plénière-là que va venir s'insérer également la première Assemblée générale officielle. Pourquoi première Assemblée générale officielle, mais que j'ai dit qu'il y en avait une en 96, mais là, c'est la première Assemblée générale officielle où on a un CA qui a été démocratiquement élu. En 1999, on lance notre premier projet de recherche qui s'intitule « Trois clandestins, peur de passer pour ». C'est un projet qui va s'étaler sur plus d'une décennie puis qui va se décliner en deux phases, dont la première phase était de venir mesurer le degré d'intégration des lesbiennes dans les centres de femmes. Puis à cet indicatif-là, on voulait venir relever les obstacles à cette pleine intégration-là. Le rapport préliminaire va être déposé en 2001 par Diane Bélanger. Pour la phase 2, on va y revenir tout à l'heure. C'est également en 1999 qu'on a eu notre premier bureau permanent au 477 Saint-François-Xavier, qui est autrefois les locaux de l'Association des femmes sourdes. Puis, en fin d'année, 1999, on va être présente aux consultations sur l'égalité des genres de conditions féminines Canada en décembre, puis on va s'engager à marrainer un projet de conférence lesbienne pan-canadienne. Bon, Je vais vous le dire tout de suite, ça n'aura pas lieu. Malgré des efforts soutenus pendant 7 ans, on voulait que cette conférence lesbienne pan-canadienne-là se déroule durant les Art Games mondiaux, connus aussi sous le nom de Rendez-vous Montréal 2006. Mais c'est surtout la barrière de la langue qui nous empêchait de mener à terme ce projet. Ce qui n'empêche pas qu'il va y avoir quand même des rencontres préparatoires entre plusieurs lesbiennes du Canada à Montréal, que le Réseau des lesbiennes du Québec va tenir pour savoir, dans la mesure où cette conférence-là aurait eu lieu, ça aurait été quoi les thèmes de discussion qui auraient été présentés lors de panels durant la conférence lesbienne pan-canadienne. Ce qui nous amène en 2000, de l'espoir à l'horizon. C'est le nom qui avait été utilisé pour qualifier 2000. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 2000 qu'on va commencer à penser à s'impliquer auprès des lesbiennes aînées. On va commencer un projet parapluie qui s'intitulait « De l'espoir à l'horizon », pour essayer de me répéter. Donc, le premier volet aurait été de déployer là, une ligne de téléphone visant à soutenir les lesbiennes aînées, mais surtout briser leur isolement. Ça aurait été un projet qui aurait été mené en collaboration avec l'organisme Projet 10, qui nous aurait fourni de jeunes bénévoles pour communiquer avec les lesbiennes aînées. Bon, ce projet-là n'aura pas lieu, mais tous les autres projets, du moins presque, qui vont venir s'insérer sous le projet parapluie de l'espoir à l'horizon, vont être menés à terme. C'est également en 2000 qu'on va avoir notre nouvelle identité visuelle, qui va avoir été constituée par José Bellil. Puis c'est aussi en 2000 que se déroule là, la Marche mondiale des femmes de l'an 2000. Le RLQ va être présent à toutes les marches qui vont se dérouler aux États-Unis, ainsi que les marches qui vont se dérouler à Montréal, dont la célèbre marche de clôture qui était le 17 octobre 2000, au moment où le cahier des revendications mondiales ont été remis à l'ONU, à son siège à New York. En 2001, on va commencer notre projet « Vieillir en étant soi-même » qui visait à mesurer les défis de l'adaptation des services résidentiels aux besoins des lesbiennes aînées. Cette recherche-là va venir s'insérer sous le projet parapluie de l'espoir à l'horizon dont je vous avais parlé précédemment. Ça va être un projet qui va être mené par l'Alliance de recherche IRRF, Relais Femmes sur le mouvement des femmes québécoises à rire, ainsi que les chercheuses là, Joanne Paquin et Lynn Chamberlain. Du 16 au 21 avril, ça va être la Marche des femmes pour la résistance et la Grande Marche des peuples du Sommet des peuples à Québec, qui était une alternative contestatrice au Sommet des Amériques, qui visait l'adoption de la ZLELA, donc la zone de libre-échange des Amériques, qui prônait dans un contexte de mondialisation des droits sans restriction auprès des investisseurs étrangers. Le RLQ va y être, évidemment. En 2002, on lance notre mémoire qui s'appelle « Égal à qui » en janvier, qui était directement inspirée des recommandations reçues lors du colloque qu'on avait mené sur la reconnaissance des conjointes de même sexe le 25 avril 1998. Quelques temps après, mais toujours en 2002, ça va être la sanction du projet de loi 84 instituant l'union civile des personnes de même sexe, donnant par la même occasion le droit à l'adoption pour les couples homosexuels québécois, puis également là, qui venait reconnaître les liens de filiation entre les parents homosexuels et les enfants non issus de l'adoption. Donc, quelques mois après seulement, suite au dépôt de notre mémoire, la sanction de la loi reconnaissant les conjointes de même sexe a été sanctionnée. En 2003, c'est une année super importante parce qu'il va y avoir la création du comité de visibilité lesbienne de Gay-Écoute, qui est aujourd'hui Interlink, puis c'est eux là, qui vont venir prendre la relève dans l'organisation des journées de visibilité lesbienne qui n'avait pas eu lieu depuis 1992. Elles vont reprendre en 2005, mais c'est en 2003 qu'est créé le comité qui se chargera de remettre en place les journées de visibilité lesbienne. Le 4 juin, c'est la première journée de lutte contre l'homophobie. Donc, à l'époque, c'était pas le 17 mai. La première a eu lieu le 4 juin 2003. En mars, le RLQ va être signataire de la plateforme électorale pour l'égalité des femmes à l'occasion des élections provinciales du 14 avril. D'ailleurs, le RLQ va être signataire de toutes les plateformes électorales pour l'égalité des femmes. Donc, ça ne sera pas une surprise si on en reparle. Puis, on va également siéger au comité de santé lesbienne dans la recherche pour le dire, rendre les services sociaux et les services de santé accessibles aux lesbiennes, menée par le Réseau québécois d'action en santé des femmes. C'est une recherche qui a été publiée en 2003, une recherche majeure. Elle est d'ailleurs toujours disponible sur le web pour ceux qui s'intéressent. Puis c'est cette année-là qu'on va créer également notre groupe pour les aînés qui s'intitulait « Du plaisir pour les 50+. » Ça vient d'ailleurs directement s'insérer sous le projet parapluie de l'espoir à l'horizon qui visait à briser l'isolement des lesbiennes aînées. En 2004, va se tenir la seconde édition des États généraux de la communauté LGBT du Québec. Cette fois-ci, ils vont s'intituler « De l'égalité juridique à l'égalité sociale ». Puis comme lors des premiers États généraux menés en mars 96, on va également donner un atelier sur les lesbiennes, plus principalement là, sur la lesbophobie à l'intérieur de ces États généraux-là. Puis la même année, le 2 juin plus précisément, va être constitué le groupe de travail mixte contre l'homophobie qui va être mandaté pour élaborer la future stratégie de lutte contre l'homophobie à travers la production d'un rapport de consultation qui reprenait la thématique des États généraux, donc de l'égalité juridique à l'égalité sociale. Le RQ va fortement contribuer là, à l'intérieur du groupe de travail mixte contre l'homophobie. En 2005, on va lancer notre recherche « Vieillir en étant soi-même, le défi de l'adaptation des services résidentiels aux besoins des lesbiennes aînées » le soir de la Saint-Valentin, le 14 février 2005. On va également former un comité nommé « Les habitations Lavande » suite aux constats relevés durant la publication de notre recherche, donc l'isolement des lesbiennes aînées. C'est pas surprenant. On va décider de former le comité, comme je viens de le dire, qui va s'intituler « Les habitations Lavande », mais qui va tenter d'ouvrir une résidence pour lesbiennes aînées modelé sous le modèle d'une coop d'habitation intergénérationnelle. Puis, on aurait voulu appeler cette résidence-là la résidence Jeanne d'Arc-Jutras. Malheureusement, le projet ne sera pas mené à terme faute d'un lieu convenable pour résider les lesbiennes aînées qui auraient pu bénéficier de ce type d'habitation-là. Le 8 mars 2005, c'est la reprise officielle des événements de la journée de visibilité lesbienne assurée par Gaycoute, aujourd'hui Interline. Puis, le 20 juillet, gros gain législatif pour les populations LGB. Ça va être la sanction du projet de loi C-38 au Parlement du Canada, donc la loi sur le mariage civil. En 2006, vont se dérouler les Hard Games mondiaux, connus aussi sous le nom de Rendez-vous Montréal 2006, du 26 juillet au 5 août. Puis, les 20 et 21 octobre, ça va être la célébration du 10e anniversaire du Réseau de lesbiennes du Québec. Puis, tout ça va être célébré par l'organisation d'une journée de visibilité lesbienne indépendante. Pourquoi je dis indépendante? Ben, c'est que la RQ va organiser une journée de visibilité lesbienne les 20 et 21 octobre, pendant que, à la même année, vont se dérouler tout de même les activités dites officielles de la journée de visite lesbienne menée par Guy Écoute, aujourd'hui connu sous le nom d'Interline. À l'intérieur de ces célébrations-là, on va lancer un calendrier lunaire soulignant les dates importantes de l'histoire lesbienne, composé de visuels uniquement soumis par des lesbiennes, puis qui vont être accompagnés de poèmes haïku, donc des petits poèmes japonais, tous composés par la poétesse Jannick Bello. Toujours en 2006, va sortir notre vidéo documentaire qui s'intitulait « Portrait de lesbienne aînée », directement lié au projet « Vieillir en étant soi-même », qui était lui aussi un projet qui s'insérait sous la visée du projet parapluie de l'espoir à l'horizon, donc venant tenter de briser l'isolement des lesbiennes aînées. Donc, le tournage avait débuté en 2001, puis c'est un super bon documentaire qui documente les réalités et les histoires des lesbiennes aînées. En mars 2006, va être lancé le rapport d'enquête « Les besoins en santé et en services sociaux des gays et lesbiennes et de leurs familles au Canada ». C'est une recherche menée par Shari Brotman, Bill Ryan et Elisabeth Meyer de l'École des services sociaux de McGill. Puis c'est une recherche à laquelle on va également contribuer. Puis cette recherche-là va avoir énormément d'attention médiatique. Le lendemain de sa publication, il va y avoir des articles dans la presse, dans la Gazette, dans Le Devoir, qui vont venir statuer qu'en effet, les aînés LGBT sont plus souvent victimes de discrimination, puis que c'est plus difficile vieillir et souffrir d'isolement. C'est encore plus probable de souffrir d'isolement quand on est un aîné LGBT. Donc, énormément d'attention médiatique sur cette recherche-là. En 2007, on va commencer la phase 2 du projet Les droits clandestins. Donc, je vous avais dit, la phase 1 visait à mesurer le degré d'intégration des lesbiennes dans les centres de femmes, puis également venir mesurer les freins à cette pleine intégration-là. La phase 2 consistait à venir abolir les freins de cette pleine intégration-là par la tenue d'ateliers d'éducation populaire et d'ateliers de sensibilisation dans les centres de femmes visés par la recherche. Du 23 au 26 août, c'est le Forum social québécois où la RLQ va animer une table ronde qui s'intitule « Quand les lesbiennes se visibilisent, un prix à payer quand on sort de l'invisibilité ». C'est une prise de parole qui va être faite directement en réponse à un article de Patrick Lagacé, publié dans la Cyberpresse le 15 mai 2007, où il disait que notre projet d'ouvrir une résidence pour lesbiennes aînées, c'était une forme de ghetto lesbien. Donc, on va venir prendre parole directement à cet article-là. Puis, la même année, en mars, Ça va être le dépôt officiel du rapport de consultation de l'égalité juridique à l'égalité sociale par la Commission des droits de la personne d'après les travaux du groupe de travail mixte contre l'homophobie. Donc là, là, on est très, très près de la publication de la politique de lutte contre l'homophobie qui, on se rappelle, était en décembre 2009. Donc, on est très près de ça, mais d'abord, il y a le dépôt du rapport de consultation. On se retrouve en 2008 où le RLQ va organiser en début d'année une mobilisation conjointement avec le Conseil québécois LGBT sous le thème « La neige brûle » pour la défense des droits collectifs, de la paix et de l'environnement. On va inviter les gens à venir manifester sous flambeaux, ben avec des flambeaux en fait, d'après la résolution qui avait été prise par l'Assemblée des mouvements sociaux du Forum social québécois tenu l'année dernière, donc en 2007. On va également organiser conjointement avec la Fédération des femmes du Québec deux autres actions mobilisatrices, dont la première était une pétition pour la sauvegarde du système de santé publique contre la prolifération du financement des assurances privées en santé. La deuxième action, ça va être une campagne de cartes postales adressée au cabinet du premier ministre Stephen Harper pour exiger la pleine rétroactivité du supplément de revenus garanti pour les aînés sous le slogan « Monsieur Harper, j'ai de la mémoire ». Puis en fin d'année, toujours en 2008, cette fois-ci le 8 novembre, on va organiser un 10e anniversaire du réseau de lesbiennes du Québec « Take Two », ainsi qu'une deuxième journée de visite lesbienne qui va venir s'insérer dans ces célébrations-là. Une journée de visibilité lesbienne indépendante, comme en 2006. Donc, les événements de journée de visibilité lesbienne, dites officielles, vont quand même avoir lieu sous l'égide de Gaycoute/Interligne, mais on va tout de même organiser la même année une autre journée de visibilité lesbienne indépendante. En 2009, va être dévoilée en fin d'année, mais plus précisément le 12 décembre, la politique nationale québécoise de lutte contre l'homophobie. C'est cette année-là également que le RLQ va recevoir 120 000 $ sur 3 ans pour la diffusion de son documentaire « Portrait de lesbienne aînée ». Ça, ça avait été rendu possible parce que en 2008, il s'est tenu une commission des aînés, puis qu'on a eu la chance de remettre notre mémoire vieille en étant soi-même ou le défi de l'adaptation des services résidentiels aux besoins des lesbiennes aînées, ainsi que notre documentaire à la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais. Donc, c'est ça qui va nous donner l'octroi de 120 000 $ sur 3 ans pour la diffusion de notre documentaire. Le reste de la subvention va aller au projet, à l'initiative Pour que vieillir soit gay, qui est un projet qui existe toujours encore d'ailleurs. La même année, on va également donner notre appui au projet de constitution de la chaire de recherche contre l'homophobie, aujourd'hui renommée la chaire de recherche en diversité sexuelle et en pluralité des genres, qui va être constituée 2 ans plus tard pendant le dévoilement du premier plan d'action gouvernementale de lutte contre l'homophobie, donc en 2011. En 2010, en début d'année, il va y avoir la formation du comité interministériel chargé de mettre en œuvre cette même politique de lutte contre l'homophobie, puis il va également avoir la constitution du comité de liaison LGBT. Le comité interministériel va être chargé de garder un lien avec le comité de liaison LGBT constitué d'organismes communautaires et LGBT pour s'assurer que la politique de lutte ne s'écarte pas des besoins et des attentes de la communauté LGBT. La même année, soit le 2 octobre, il va y avoir une journée de visibilité lesbienne organisée par le Centre de solidarité lesbienne. C'est pour ça que je le souligne, la journée de visibilité lesbienne en 2006 qu'on a tenue indépendamment au RLQ, ainsi que celle de 2008. Puis en 2010, on va venir officiellement s'impliquer dans l'organisation des journées de visibilité lesbienne officielles. Donc à partir de 2010, ça va être sous l'égide du Centre de solidarité lesbienne que vont être assurés les événements de la visibilité lesbienne. On va être également en partenariat avec la Revue 13, la Fédération des femmes du Québec et la Coalition des familles homoparentales, aujourd'hui la Coalition des familles LGBT. Bon, ensuite, le déroulement chronologique voudrait que je parle de 2011 et de 2012, mais en 2011, le RLQ a suspendu ses activités faute de coordonnatrice là, au sein de l'équipe. Donc, il n'y aura pas d'activité spécifique au RLQ pendant cette période-là. Ce qui n'empêche pas que le RLQ va tout de même participer là, à des événements de la fierté, tout comme il va participer au Festival Image Nation pour y parrainer des films. Mais il n'y aura pas d'activité spécifique au RLQ en 2011. En 2012 non plus, on va essayer de reprendre du poil de la bête, là, tranquillement, pas vite. Mais en 2012, il y a tout de même eu là, des événements assez importants pour la communauté lesbienne, dont la première Dyke March, qui s'est déroulée le 14 août 2012 par le collectif du même nom. Mais il va y avoir également là, une deuxième Dyke March dans la même semaine, qui se trouvait être la première Dyke March de Fierté Montréal, quelques jours après, le 18 août, à 4 jours d'écart. Puis la différence entre les deux, c'est que celle du collectif Dyke March, donc la première, celle du 14 août, était qualifiée de plus « grassroots » pour les autocités, c'est-à-dire une marche non mixte, plus radicale, sans institution, alors que celle de Fierté Montréal va évidemment être une marche là, institutionnelle. C'est également en 2012 que va être constituée LSTW, aussi connue sous le nom de Let's Spread the Word. Donc, je trouvais ça intéressant de le souligner parce que c'est quand même quelque chose d'important qui s'est passé en 2012. En 2013, l'RLQ va revenir en force avec un plan de relance ainsi que des nouvelles orientations. On va surtout tenter de revenir reprendre contact avec nos membres, plus précisément les plus jeunes. On va d'ailleurs présenter nos nouvelles orientations à une table ronde d'échange sur la visibilité et des enjeux des réseaux de lesbiennes à la chaire de recherche de diversité sexuelle et de pluralité des genres. Le 17 mai, on va lancer notre nouveau logo dans le cadre de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. On va également lancer des nouveaux objets promotionnels comprenant, entre autres, des sous-verts qui mentionnaient « Pouvez-vous nommer 5 lesbiennes out? Pouvez-vous nommer 5 lesbiennes dans le domaine des arts? » On va également lancer des cartes postales arborant des statistiques sur les réalités lesbiennes, dont l'une était là, que les lesbiennes statistiquement vivent plus souvent en précarité que les femmes hétérosexuelles. On va également organiser un photoshoot qui s'intitulait « De l'ombre à la lumière » où on va venir photographier 28 femmes pour venir illustrer nos futurs objets promotionnels, mais également habiller notre nouveau site web. Donc, la relance, nouveaux objets, nouveau site web, nouvelles orientations. Du 11 au 2 août, on va aller faire une tournée au Lac-Saint-Jean, puis on va participer au grand rassemblement des Premières Nations de Mashtuyak. Puis ça va être pour venir constater les réalités des lesbiennes en région, mais aussi en réserve autochtone. On va également organiser durant l'été plusieurs kissings, mais il y en a un qui va être particulièrement important qui va se dérouler le 17 novembre, donc en fin d'année. Celui-là, pourquoi je dis qu'il est particulièrement important? C'est parce qu'il vient réagir directement à une actualité qui s'est passée dans la nuit du 17 novembre où il y a un groupe de femmes qui s'est fait agresser dans la rue à Montréal parce qu'elles avaient l'air lesbiennes. Et je cite l'article, elles avaient l'air lesbiennes et féministes. Donc ça fait la une. On est venu rédiger un communiqué pour dénoncer cette attaque lesbophobe-là. On a également organisé un kissing. Donc un encouragement à donner de l'amour. Cette même année-là, on va également participer à une campagne d'envoi de cartes postales au premier ministre Harper et également une vigile pour la fierté à Sochi. Pourquoi? On se rappelle qu'en 2013, c'était les Jeux olympiques à Sochi, puis qu'une loi anti-propagande homosexuelle en Russie, qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Donc, tout affichage public qui pourrait s'associer à une représentation homosexuelle est interdite là, dans le but de ne pas corrompre les enfants et le modèle de famille hétérosexuelle, évidemment. En 2014, la RLQ va être présent à la manif des femmes pour l'autonomie, la liberté et la défense de nos corps dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, donc dans le cadre du 8 mars. Puis, on va également participer à la Journée nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, donc le 17 mai, pour y distribuer des tracts sur l'invisibilité lesbienne. Je dis des tracts, mais c'est surtout aussi les nouveaux objets promotionnels qui avaient été développés dans l'année dernière. On va également lancer notre nouveau site web le 12 novembre à la Galerie Dentaire sous les visuels là, du projet photo de l'ombre à la lumière que j'avais énoncé précédemment. En 2015, il va y avoir beaucoup de manifestations. On se rappelle, 2015, là, c'était l'année où on se battait contre le régime austère des libéraux. Donc, il va y avoir une manifestation directement liée à ça le 2 avril 2015. Il va également avoir une autre manifestation le 3 novembre en soutien à la grève des organisations communautaires sous-financées par ce même régime austère devant le bureau du premier ministre Couillard avec 300 autres groupes communautaires. C'est également en 2015 qu'on va organiser un atelier de pancartes dans le cadre du festival Air Libre, qui était un festival assuré par Tourisme Montréal à l'époque, un festival d'art de rue, si je peux dire ainsi. Dans le cadre de ce festival-là, on va avoir la peintre Pascale Labelle qui va venir nous peindre une toile en public, à l'extérieur, puis qui va la faire tirer au bénéfice du RLQ. Le 13 août, on va organiser la Dark March de Fierté Montréal, qui a été renommée en 2015 Fière à la marche officielle des lesbiennes et amies. En 2016, on va organiser la JVL, donc la Journée de visite lesbienne, le 14 mai, sous le thème « Qui suis-je » à l'Écomusée du Fiermonde, en collaboration avec le Centre de solidarité lesbienne. Puis ça va également être l'occasion pour le RLQ de lancer un mini-guide terminologique sur la diversité sexuelle. On va également organiser la Dyke March cette même année, fidèle à nos habitudes sud, là. Depuis que la Dyke March a été renommée l'année précédente, Pierre, la marche des Dykes et des Alliés, on va l'assurer, là, pour les années à venir. Puis, le 24 août, on va lancer notre premier recueil de textes qui s'intitulait « Éphémère, cette femme qui me » au restaurant Milligram. Le premier recueil de textes, je trouvais ça assez important comme initiative parce que on va avoir fait des appels de textes dans la communauté pour inviter les lesbiennes à publier des textes qu'elles auraient faits. Puis on va également les encourager à développer leurs aptitudes de rédaction en organisant des ateliers de rédaction. On va également, le 1er septembre, déposer au bureau de lutte contre l'homophobie un avis qui s'intitulait « Lesbophobie, contre l'invisibilisation des lesbiennes et des femmes de la diversité sexuelle ». Le lendemain, donc le 2 septembre, on va organiser une séance photo sous le thème « Toi, moi et nos diversités » où 8 femmes vont être photographiées à titre de modèle pour nos futurs objets de promotion. Puis, toujours en septembre, du 22 au 24, on va également être partenaire avec le Conseil de recherche en sciences humaines et le Réseau québécois d'études féministes, ainsi que le groupe d'intervention vidéo dans la tenue du colloque international et interdisciplinaire « L'artivisme lesbien à l'ère de la mondialisation » qui avait été organisé par Dominique Bourque, Joanne Coulombe ainsi que Vanessa Plante à Ottawa. D'ailleurs, il y a même un documentaire éponyme qui a été réalisé sur ce colloque-là par Kimura Biol, puis toujours en ligne pour ceux qui s'intéressent. En 2017, on va venir également organiser une autre édition de la Journée des lesbiennes en partenariat avec le Centre de solidarité lesbienne sous le thème « Mythe ou réalité » à l'Écomusée du Fiermonde. Ça va être l'occasion de lancer un deuxième guide terminologique sur la diversité sexuelle. Puis on va également, le 13 août, organiser la 7e édition de la Dyke March qui va être rebaptisée officiellement par la RLQ, la L March. On va d'ailleurs avoir un logo exclusif qui va être conçu par Let's Spread the World la même année pour notre L March. On va également lancer, cette année-là, 10 mini-capsules documentaires présentant des portraits de femmes québécoises de la diversité sexuelle. En 2018, on va être visible par l'image et par l'art. Pourquoi je dis ça? Ben d'abord parce que la thématique de la journée de visibilité lesbienne de cette année-là, le CISME, ça va être Annales lesbiennes à l'Écomusée du Fiermont. Donc, on misait par les archives. Le 12 août, on va encore organiser la L March. Le lendemain, le 13 août, on va organiser une soirée cinéma L en collaboration avec le groupe d'intervention vidéo. Le surlendemain, donc le 14 août, ça fait une grosse semaine, on va présenter pour la première fois notre conférence qui s'intitulait « Les femmes de l'ombre », qui était une conférence qu'on donnait pour venir présenter l'histoire du féminisme, mais aussi de la part des lesbiennes, de l'histoire de ces lesbiennes-là, au sein du mouvement féminisme des années 60 à aujourd'hui. Le 16 août, on va lancer notre deuxième recueil qui s'intitule « Elle se raconte » d'après des appels de texte, encore une fois, à la librairie Le Gélium. C'est cette même année-là qu'on va créer les éditions Safik du RLQ. À partir de 2018, tous les livres qu'on va publier vont être édités sous les éditions Safik du RLQ. Puis, le 19 août, c'est la 34e édition du Défilé de la fierté. Puis, pour la première fois, les contingents de femmes vont débuter ce défilé-là. Pour l'occasion, on va avoir un drapeau exclusif qui va être créé par Gina Mera en août 2018 pour servir de point de ralliement à tous les événements lesbiens qui vont se dérouler dans le cadre des activités de la fierté en 2018. Puis ensuite, en fin d'année, toujours pour être visible par l'image et par l'art, la RLQ va sortir son premier court-métrage qui s'intitule « Femmes, réflexion identitaire, Women Beyond Labels ». Puis ça, ça va faire partie de la sélection officielle de plusieurs festivals de films, dont le célèbre Klexacon Film Festival à Las Vegas, pour ne citer que celui-ci, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup d'autres. En 2019, on va lancer notre tournée qui s'appelait « Empowerment des femmes LGBT », qui consistait à faire de l'éducation dans les universités pour résister aux agressions. Cette tournée-là, elle est sous trois volets. D'abord, le programme commence par la tenue de la conférence « Les femmes de l'ombre », donc la conférence là, qui présentait l'histoire du féminisme et la part des lesbiennes au sein de ce mouvement-là des années 60 à aujourd'hui. Le deuxième volet, c'est le programme éducatif de résistance « Flip the script »« Enhance, Assist, Acknowledge, Act, EAAA ». L'acronyme EAA. Puis le troisième, c'était un programme d'autodéfense Window. Ensuite, le 1er juin, c'est officiellement la nouvelle formule de la journée de visite lesbienne avec la porte-parole Safia Nolin au Never Apart. Pourquoi est-ce que je dis nouvelle formule? Mais parce qu'il va y avoir d'abord des ajouts, donc les ajouts de porte-parole pour porter l'événement. Puis, il va également avoir la création de prix. Le prix visibilité de cette année-là va être remis à Judith Lucier, puis le prix hommage à Lynn Chamberlain. Je dis également nouvelle formule parce que c'est à partir de 2019 que c'est strictement la RLQ qui va s'occuper de la tenue des journées de visite lesbiennes, alors que le Centre de solidarité lesbienne et LSTW vont devenir des partenaires médiatiques. Le 11 août, on organise une soirée qui s'intitule « Elle s'exprime » en hommage à l'école Guilford. Puis, le 20 septembre, on organise une autre soirée qui s'intitule « Toutes les lesbiennes en parlent » pour venir imiter, si on veut, la formule d'un talk show, comme tout le monde en parle, mais c'est « Toutes les lesbiennes en parlent ». Puis de quoi qu'elle parle? Elle parle du lancement des éditions digitalisées de tous les numéros de la revue Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui. Ils sont d'ailleurs toujours disponibles sous format numérique aux éditions sans fin, toutes numérisées avec un index. C'est un projet vraiment important. Puis, en fin d'année, toujours en 2019, on va lancer notre première PD qui s'intitulait « Lesbo Queer » à la librairie Le Guélion, qui était notre premier outil d'éducation qui visait à circuler dans les écoles. En 2020, on va lancer une étude concernant les spécificités et les impacts liés à la crise du COVID sur les femmes LGBT au Québec. On va présenter ça à la ministre responsable de la condition féminine. Loin étions-nous de savoir que le COVID allait durer autant de temps qu'il a duré. Donc, seulement un mois après le déclenchement de la crise sanitaire, on a publié un mémoire là-dessus. Puis, l'année suivante, donc un an et demi après le déclenchement de cette même crise sanitaire-là, on va venir se servir des données publiées en avril 2020 pour en faire une étude comparative un an et demi après plus tard. Les 6 et 7 juin, on va toujours assurer la JVL, mais cette fois-ci en ligne, pandémie l'oblige, avec la porte-parole Safia Nolin pour une deuxième édition. Puis on va venir, cette année-là, créer notre fameuse zine des portraits où des portraits des femmes de la diversité sexuelle vont être présentés à l'occasion de chacune des journées de visite lesbienne sous un ouvrage qui s'appelle, bien évidemment, le zine. Cette année-ci, les prix de visibilité lesbienne et les prix hommage vont être remis à Glossy et à Manon Massé. Puis, en fin d'année, on va s'entretenir avec Alice Coffin pour discuter de son ouvrage intitulé « Le génie lesbien » publié aux éditions Grasset en septembre 2020. C'est un ouvrage majeur. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite immédiatement à vous le procurer, « Le génie lesbien » d'Alice Coffin. Puis, en 2021, on va commencer l'année en présentant une nouvelle conférence qui s'appelait « Droits des femmes LGBTQ2S+, d'ici et d'ailleurs ». C'est une conférence qui va être donnée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Ça va être présenté par Julie Vaillancourt ainsi qu'Alan Ortega. On va également lancer en mars notre troisième recueil qui s'intitule « Histoire vraie », d'après des appels de texte auprès de nos membres, encore une fois. Puis ça va être notre premier ouvrage bilingue. Le 2 avril, on va participer à la grande manifestation contre les féminicides qui s'intitulait « Pas une de plus ». Puis on se rappelle, ça avait été tenu en avril 2021 en réaction au 8e féminicide commis en moins de 4 mois. Mais je vous apprends rien quand je vous dis que le nombre continue de grimper durant l'année 2021. Mais on était là pour manifester, pour pas qu'il y en ait une de plus. T'sais. Les 5 et 6 juin, toujours une JVL assurée par le Réseau des lesbiennes du Québec, mais cette fois-ci avec la porte-parole Eve Salvaille. Ça va être donné en ligne cette fois-ci également. Puis on va sortir pour cette édition spéciale un zine des portraits spéciales 17 régions du Québec où on va venir présenter un portrait d'une femme de la diversité sexuelle par région. Les prix de cette édition-ci vont être remis à Diane Obomsawin pour l'hommage et pour la visibilité, le prix va être remis à Catherine Levac. Durant l'été 2021, on va organiser un barbecue communautaire lesbien où il y a 300 femmes qui vont se présenter. C'est un de nos événements qui a été les plus réussis, mais aussi un des plus populaires. On va également participer le 15 août à la marche manifestive de la fierté. On se rappelle que l'année dernière, il n'y avait pas eu de défilé. On invitait plutôt les gens à faire une marche manifestive pour aller à la genèse des défilés qui n'étaient pas en fait des défilés. Les premiers défilés ont commencé en manifestation. C'était ça l'année dernière et on y était. Le 2 septembre, on va organiser une activité de survie en forêt dans le cadre de la fierté arc-en-ciel à Québec. Puis, le 10 septembre, on va être encore en région, mais cette fois-ci à Chicoutimi pour organiser une course de 5 km et une soirée billard en partenariat avec l'organisme Diversité 02. Enfin, du côté des études, le 17 mai, on va lancer notre première enquête qui est à l'image d'un recensement qui s'appelait « Portrait des femmes de la diversité sexuelle au Québec ». Ça va être publié le 1er juillet. Puis l'échantillon de femmes qu'on a rejoint pour cette enquête statistique-là, c'était de 685. On a réussi à aller rejoindre beaucoup de gens avec cette étude statistique-là. Ensuite, le 16 septembre, on va paraître dans Le Devoir, dans l'article. Quelle place pour les défis LGBTQ2S+ dans la campagne électorale? Donc, on va venir présenter nos revendications à la venue des élections d'octobre 2021. Puis, enfin, dernière étude, le 22 septembre, je vous avais parlé là, de l'enquête qu'on avait réalisée un mois après le déclenchement de la crise sanitaire au Québec, donc en avril 2020. Ben là, un an et demi après, les données qu'on avait amassées en avril 2020 vont nous servir à produire une autre étude sur les impacts de la COVID sur les femmes de la diversité sexuelle au Québec. Enfin, ce qui m'amène en 2022, donc à notre époque, pour vous dire qu'en janvier, on a lancé notre nouveau site web. On a également lancé notre nouvelle identification visuelle. On a ensuite lancé en avril une campagne qui s'intitulait « Invisibiliser, c'est discriminer ». Une campagne qui a été publicisée par De l'affichage sauvage. Un nouveau site web sous le thème « Invisibiliser, c'est discriminer » où on invitait les femmes à nous partager des témoignages d'expériences lesbophobes vécues. On va également distribuer du matériel de sensibilisation en lien avec cette campagne-là. Cette campagne-là a été réalisée, évidemment, là, pour faire écho au 40e anniversaire de la journée de visite lesbienne qui a débuté en 82, comme je l'avais dit précédemment. La porte-parole, ça va être Coco Béliveau. Puis, on va venir faire, pour l'occasion, un historique revisité de la journée de visite lesbienne, 40 ans d'histoire, dans le Zine des portraits 2022. Ça va également être diffusé sur Wikipédia. Là, si vous allez sur la page Journée de visite lesbienne au Canada, c'est un historique de la JVL publié dans le Zine. L'article a été fait à partir de ce qui avait été publié dans le Zine de la JVL. C'est le même article publié à deux endroits différents. Les prix de cette année-là vont aller à Sarah May pour la visibilité et Nicole Brossard pour l'hommage. On va également venir créer un nouveau prix militantisme en l'honneur de Joanne Coulombe. Enfin, en juin, c'était la célébration du 25e anniversaire du RLQ, plus précisément le 18 juin. Donc, c'était aux Archives nationales sur VGS. Et à venir très bientôt, cet été, on va reprendre notre événement à succès du barbecue lesbien, puis on va également venir faire une tournée des régions en lien avec les festivités liées aux fiertés dans chacune des régions. Puis, à venir également, ça va être la publication du livre « Archives lesbiennes d'hier à aujourd'hui », dont le lancement officiel est prévu pour avril 2023. Puis, on va également venir publier sur notre site web un récapitulatif des informations que vous venez d'entendre, donc sur nos 25 ans d'histoire. C'était Cassandra Rivet. Merci beaucoup, au revoir.